Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 15e numéro du Coin Lecture, l'émission de Radio Libre en Périgord dédiée à la lecture de textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle de Séverine Mazière. Séverine Mazière a le sud-ouest chevillé au corps, périgourdine de naissance, elle réside aujourd'hui à Périgueux, et c'est dans cette bonne ville que se déroule l'action de son premier roman Épigone aux éditions Alter Réal, un thriller déjà récompensé par plusieurs prix littéraires et en lice pour celui de Mauves-sur-Loire. Nous avons eu l'occasion d'en découvrir le premier chapitre lors du 4e numéro du Coin Lecture et je vous invite à aller l'écouter en podcast si vous l'avez raté. Mais Séverine Mazière a aussi plusieurs recueils de nouvelles à son actif, Des nouvelles d'ici, entre gris clair et gris foncé, et son dernier 100 000 broutilles. Elle a également participé à deux recueils collectifs, 11 bruits de couloir et 12 trains de vie. Le texte que je vais vous interpréter aujourd'hui est la nouvelle « Le bruit du silence » extraite du recueil « 100 000 broutilles ». Bonne écoute. Le bruit du silence. Julien souffle devant son écran, une ride se creuse au-dessus de son nez, entre ses deux yeux. Il peste et tapote frénétiquement sur son pavé tactile pour faire défiler la page de son compte bancaire. « Elle se fiche de moi !» Depuis le fauteuil d'en face, Laura fixe son téléphone sur lequel des chats renversent un vase de fleurs, un pot à crayons, leur bol de croquettes ou leur litière. Sans lever les yeux, elle demande « Qui ça ?»«
Élise Fournier, c'est le deuxième mois qu'elle ne me paye pas le loyer !»«
C'est ta locataire ?»«
Ouais. »«
C'est quel appart ?» S'enquiert la jeune femme, zappant sur une nouvelle vidéo, ne levant toujours pas le nez.
« Celui du rez-de-chaussée à la Boca. »«
Boulevard Louis Négrin. »«
Non, rue Brouchier, le petit en bas. »
Julien claque l'écran du portable qu'il dépose sur la table basse et se redresse. Il attrape son mobile à côté, fait défiler quelques numéros, appuie sur le bouton vert et colle l'appareil à son oreille. Il se rassoit. Sa jambe tressaute sur le parquet point de Hongrie. Première sonnerie. Il lève le regard vers Laura, toujours absorbée. Deuxième sonnerie. Quelques pochettes de vinyle traînent sur le buffet bas à côté d'elle. Troisième sonnerie. Random Access Memories est sur la platine. Quatrième sonnerie. Cinq galettes noires sont déposées de l'autre côté. Répondeur.
Fais chier !
Julien jette l'appareil sur le canapé. Julien Isnard n'a pas reçu le loyer de sa locataire pour le deuxième mois consécutif. Il l'a remarqué dès le premier mois. Il a pris ça pour une erreur bancaire. Après tout, depuis 5 ans, elle a toujours payé à la date exacte avec la ponctualité mécanique de quelqu'un qui n'oublie jamais ses obligations. Pas comme certains autres occupants qu'il a dû poursuivre à maintes reprises. Cette fois, quelque chose cloche. Julien a 36 ans. Et derrière son visage encore jeune, une dureté s'est installée. L'héritage familial qu'il gère n'est pas anodin. Ses grands-parents, fins promoteurs immobiliers cannois, ont su flairer les bonnes affaires dès les années 60. De cet héritage, il a tiré plusieurs biens éparpillés sur la Côte d'Azur. Depuis quelque temps pourtant, il porte le poids d'une rancœur, la faute à ce qu'il considérait comme l'affaire du siècle et qu'il a vu lui échapper en 2020. Son frère, cloué au lit par le Covid, n'a pu honorer une rencontre avec Leonardo DiCaprio afin de finaliser l'achat d'une villa très convoitée à Cannes. Depuis, chaque fois qu'il aperçoit le yacht de la star dans la baie, une colère sourde le saisit et il serre les poings. Son père ne lui a pas pardonné ce revers et le tient personnellement pour responsable. Son grand frère est encore une fois le héros maudit, condamné à supporter un puiné si peu sagace. Julien n'encaisse pas cet échec. Il aimerait que son père arrête de le voir comme le deuxième, celui qui passe après. Il sait qu'il est un enfant de retour de couche et qu'il n'était pas attendu, pas désiré. Il voudrait exister et se sentir reconnu dans les yeux de son géniteur. Mais Jonathan est né un an avant. Jonathan a eu de meilleures notes à l'école. Jonathan est entré à HEC Paris. Jonathan a épousé une actrice montante du cinéma français. Jonathan a des jumeaux parfaits. Jonathan réussit tout et mieux. Julien vit aujourd'hui à Mougins, dans un appartement moderne, minutieusement rénové pour répondre aux exigences de sa jeune épouse de 8 ans, sa cadette. Laura est une enfant de la vieille noblesse bancaire de la région. Son emploi du temps, bien plus léger que celui de Julien, se partage entre les rendez-vous dans les salons de beauté, sa styliste, et l'encaissement des chèques mensuels que son père et sa grand-mère lui glissent sans qu'elle ait à lever le petit doigt. Les liens familiaux sont distants chez les Mattei. Elle n'a pas vu sa mère depuis une décennie, mais cela ne lui manque pas plus que cela. L'un à côté de l'autre, ils se côtoient souvent en silence, chacun absorbé par son écran ou ses pensées. Laura s'amuse de son côté, faisant défiler sans fin des vidéos de chats espiègles, tandis que Julien scrute les rentrées de loyer et guette les anomalies avec l'attention d'un homme qui sait combien le moindre retard peut coûter. Élise Fournier est la locataire idéale. Elle a programmé un virement automatique pour le premier de chaque mois. Et sauf si c'est un dimanche ou un jour férié, invariablement, l'argent arrive sur le compte de Julien. 727 euros, précisément, charges comprises. Aussi, quand le paiement d'Élise ne se présente pas le premier du mois, Julien ne réfléchit pas et décroche tout de suite son téléphone pour joindre son conseiller bancaire.
Jean-Bapt, c'est Julien.
Jean-Baptiste Augier connaît Julien par cœur. Il ne passe pas une semaine sans que celui-ci ne l'appelle pour régler des détails d'intendance, exiger des explications sur une opération bancaire ou, de temps en temps, signaler un nouveau locataire récalcitrant. Il sait que son client a un goût immodéré de la gestion. Il veut tout contrôler, tout filtrer, tout comprendre. C'est pourquoi la relation dépasse régulièrement le cadre professionnel. Au détour d'une après-midi au Riviera Golf de Barbossi, Julien a insisté pour avoir le numéro privé de Jean-Baptiste, un numéro que ce dernier partage rarement, mais qu'il a cédé pour préserver la tranquillité délicate de ses meilleurs clients. Ce lundi matin, quand Julien l'appelle en urgence, il sent que la situation est différente. Élise Fournier n'est pas de ces locataires imprudents ou négligents qui accumulent les retards. Jean-Baptiste le sait bien, même si, au début, il a eu l'occasion de valider un ou deux virements ponctuels de cette occupante modèle. Ce manquement, une première en 5 ans, intrigue autant qu'il inquiète. Alors, sans perdre un instant, il promet « Je vais vérifier, pas de problème, ce sera réglé demain. » Julien raccroche rasséréné. Mais force est de constater qu'un deuxième mois s'enchaîne, sans paiement et sans nouvelles de Jean-Bapt, qui est parti en congé. Le problème est toujours là. Julien s'impatiente. Il songe carrément à changer de conseiller, si cela s'avère nécessaire. Il va aussi devoir lancer une procédure au tribunal, comme à son habitude. Il n'a rencontré personnellement sa locataire que pour échanger quelques signatures à la remise du bail et des clés avec son avocat. Il se souvient d'une vieille femme, voûtée et discrète. Une femme qui ne cause aucun souci, qui paye son dû et ne fait pas de vagues. À vrai dire, il n'a jamais pensé à elle plus que nécessaire. Le loyer tombe chaque mois. C'est tout ce qui lui importe. Jean-Bapt ne donnant pas plus de nouvelles, Élise Fournier ne répondant toujours pas, Julien contacte son avocat, François Vergès, qui aime laisser le doute planer quant à son éventuelle filiation avec Jacques Vergès. Celui-ci est ennuyé. La trêve hivernale vient de débuter, il va falloir patienter 5 mois avant de pouvoir parler d'expulsion. Julien doit trouver un moyen de récupérer son loyer avant cette échéance. Il en va de sa crédibilité et de sa dignité d'homme d'affaires. Son avocat rédige pour lui un premier courrier de mise en demeure de paiement qu'il envoie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le bordereau revient, validé, au bout d'une semaine. La vieille dame reconnaît donc qu'elle est en défaut. Malgré cela, Julien ne dort plus vraiment. Les jours s'étirent, lourds d'un silence de plus en plus pesant, au fil de l'absence inexpliquée d'Élise Fournier. Le mois de novembre se termine et toujours aucun signe de paiement. Les appels se succèdent, sans réponse. Un peu honteux, lunettes de soleil et casquette vissées sur la tête, Julien se rend dans le quartier. Il veut régler cette affaire avant que ça monte aux oreilles de M. Isnard Senior. Il ne veut même pas imaginer la réaction de son père ni les conséquences. Les voisins interrogés à plusieurs reprises semblent incertains. L'un ne se souvient pas de l'avoir déjà rencontré, mais il n'est là que depuis l'été. Un autre croit se rappeler une dame aperçue de temps en temps dans la cage d'escalier. Un troisième pense qu'elle doit être à l'hôpital. Un dernier affirme qu'une personne lui porte ses repas et vient lui faire son ménage. Julien se heurte à une opacité déconcertante. L'immeuble de la rue Brouchier, comme si le poids des années l'avait figé, est plongé dans une léthargie que rien ne semble pouvoir troubler. Las de ce mystère et décidé à comprendre ce qui se trame, Julien engage un détective privé, Thierry Lamarque, un ancien policier reconverti dans les enquêtes de voisinage. Thierry est un homme pragmatique, sans éclat mais efficace. Il connaît l'avocat comme le fond de sa poche. Après une semaine de filature, de contacts discrets et de recherches, il rend son rapport à Julien en terrasse d'un café bondé de cannes où ils pourront discuter sans être entendus.
« Monsieur Isnard, je ne vais pas vous mentir, » dit-il en feuilletant son calepin. « J'ai cherché, et à part quelques voisins qui pensent avoir entrevu cette dame, personne n'a de souvenir précis d'elle. Apparemment, elle n'a jamais voulu du service de portage des repas et la femme de ménage a été renvoyée au bout de quelques semaines. Madame Fournier trouvait que ce n'était jamais assez bien fait et elle avait tout le temps peur qu'on la vole. Hormis le jeune facteur qui m'a dit lui avoir donné un courrier à signer il y a peu, elle ne parle à personne. »
Julien sent la colère monter. Cette situation lui échappe et le fait enrager. Il pianote nerveusement sur le rebord de sa tasse vide, la mâchoire serrée. Thierry hausse les épaules, résigné.
« Peut-être qu'elle est tout simplement partie, sans prévenir. »
Les jours passent et la frustration du propriétaire grandit, alourdie par la distance impassible de Laura qu'il ignore la plupart du temps, absorbée par son univers de vidéos et d'influenceuses en ligne. Noël s'écoule dans une indifférence glacée et les fêtes sont à peine évoquées chez eux. Les semaines défilent. Julien perd l'appétit. Il se retrouve obligé de rendre des comptes à son père.
« Ne t'inquiète pas, je gère la situation, » lance-t-il d'un ton qui se veut assuré.
Pour toute réponse, Julien lit un mépris total dans les yeux paternels. Le courrier recommandé de février revient, signé encore une fois. Pour Julien, c'en est trop. Ce paraphe proprement apposé, presque provocateur, semble le narguer. Il explose et doit agir. Le lundi suivant, dès 8h, ignorant les protestations de l'employé de l'accueil, il entre en trombe dans le bureau de son conseiller juridique.
« Ça suffit ! Arrête de me trimballer ! Faut qu'elle paye !»
vocifère Julien en pénétrant dans la pièce, pointant un doigt rageur sur un François Vergès stupéfait.
« Bonjour, non ? Tu parles d'Élise Fournier ?»
demande calmement l'avocat. Refermant le dossier qu'il a sous les yeux, il se lève de son secrétaire pour s'approcher de celui qui fut son ami de lycée.
« T'en connais d'autres qui me doivent 5 mois de loyer ? Elles dépassent les bornes et ça n'a pas l'air de te tracasser !»
François pose une main sur l'épaule de Julien et l'invite à s'asseoir dans l'un des fauteuils club de son grand cabinet vitré.
« T'as l'impression que j'ai envie de m'asseoir ?»
poursuit Julien, repoussant la main de son ami.
« Tu te fous de moi ?»
Julien s'approche de François et baisse d'un ton. Il parle maintenant entre ses dents. Sa voix ne tremble pas et son ami sent poindre la menace.
« Depuis novembre, tu me balades avec tes mises en demeure et il ne se passe rien du tout. Alors je te préviens, si le mois prochain ce n'est pas réglé, si j'ai pas les 5 loyers de retard au centime près, tu peux oublier mon soutien au municipal. Tu m'as bien compris ?»
Julien est bien décidé à faire bouger les choses, par n'importe quel moyen. Son père est furax, et il ne pourra plus lui cacher l'ampleur du problème très longtemps. Néanmoins, François reste flegmatique. Il en a vu d'autres. Son costume noir impeccablement ajusté, il lève la main pour tempérer les ardeurs habituelles de son client.
« La trêve hivernale court jusqu'au 31 mars, Julien. Je comprends que c'est rageant, mais on ne peut rien faire d'ici là. » « Tu veux que je tranquillise ton père ?»
Julien fulmine. Il sait pourtant que François a raison. mais il refuse de mêler son père à cette affaire. Il veut régler ça tout seul. La fin mars arrive, et dès le 1er avril, le propriétaire passe à l'action. Son ami Antoine a un huissier aux méthodes musclées, mais légales, est contacté dans l'heure. Julien n'a qu'une idée en tête, récupérer son bien. L'urgence est à la fois financière et morale. Il en va de sa fierté. Antoine saura être direct, aussi intransigeant que lui.
« Bon, on y va cette semaine, » propose Antoine. « Mais tu es conscient qu'elle a plus de 80 ans, hein ? Légalement, c'est risqué. Elle est protégée, on est dans une zone grise. »
Elle signe ses courriers, elle est en parfaite possession de ses moyens,
tranche Julien d'une voix sèche. Le jeudi matin suivant, Julien, Antoine, François et un agent de la police municipale ravi de faire plaisir à Julien Isnard, le fils de ce cher monsieur Isnard, se retrouvent devant la porte de l'appartement du rez-de-chaussée. La rue Brouchier est vide, paisible, presque trop tranquille pour cette journée où il sait que tout va enfin s'éclaircir. Antoine glisse son passe dans la serrure et la porte s'ouvre dans un grincement sourd. L'odeur qui émane du logement est lourde, stagnante, et leur parvient comme un souffle ancien. L'intérieur est sombre, une pénombre figée recouvre les meubles. Julien, pris d'un étrange malaise tout d'abord, avance pourtant. Antoine et l'agent municipal le suivent, la main prête à se pincer le nez tant l'air est âcre. Ils atteignent enfin la chambre. Julien est au bord de l'apoplexie. Sa fureur est sur le point d'éclater quand il aperçoit sa locataire. Là, allongée paisiblement dans son lit, sous une couverture fine et bordée avec soin, repose Élise Fournier. Son visage est immobile, ses traits figés depuis longtemps dans une tranquillité glaçante. La mort l'a emporté sans bruit, sans déranger l'ordre de sa chambre, comme une ombre discrète, laissant seulement un silence et une solitude que nul n'avait anticipé. La scène est d'une simplicité déconcertante. Julien reste pétrifié. Lui qui a tant pesté pour récupérer son dû, la stupeur l'envahit. Une vague d'incompréhension monte en lui, suivie d'un mélange de honte et de culpabilité. Depuis combien de temps est-elle là, invisible pour tous ? Antoine pose une main sur son épaule, discret mais compatissant. Julien, dont la dureté de façade se fissure, baisse les yeux. Il sent en lui l'écho de cette absence de liens humains. Ce silence insidieux qui a peu à peu submergé sa propre vie. Le poids de ses biens, de ses loyers, de son obsession pour le contrôle. Tout ça lui paraît dérisoire devant le corps de cette femme qui a vécu et qui est morte, sans déranger personne. Le policier municipal note l'heure et contacte les autorités compétentes. Il faut faire venir un médecin légiste. L'appartement est scellé. Julien se retrouve dehors, seul. Le froid du matin lui mord les joues et il reste là à fixer la porte fermée, pris d'un sentiment qu'il peine à identifier, une tristesse inconnue. Plusieurs semaines sont nécessaires aux autorités pour comprendre ce qui s'est passé. La police scientifique estime que la vieille femme est morte depuis au moins 2 ans, sans doute dans son sommeil. La chaleur sèche du lieu a fait le reste. Son loyer a continué d'être payé automatiquement, comme ses factures d'eau ou d'électricité. Sa retraite étant versée, elle aussi, automatiquement. Quand l'argent a manqué le premier mois, le montant de sa pension étant trop faible, son conseiller bancaire, un collègue de Jean Batte, pour ne pas déranger sa cliente qui ne répondait pas au téléphone et, par souci de simplicité, a mis en place un virement mensuel depuis son compte épargne pour combler la différence. Elle n'a jamais contesté. Il a pris cela pour un accord. Qui ne dit mon consent ? Il n'a pas trouvé curieux que la vieille dame ne consomme plus rien, ne fasse aucune course.
Je n'épluche pas les comptes de tous mes clients. Et à cet âge-là, ces gens-là ont souvent un petit pécule caché sous le matelas, si vous voyez ce que je veux dire.
Au bout de 2 ans, le livret d'épargne étant épuisé, les prélèvements de loyer ont tout bonnement été interrompus. C'est là que Julien est entré en scène et a vu rouge. Le préposé de la poste est également interrogé. Comment les accusés de réception des courriers recommandés que l'avocat a envoyés ont-ils pu être retournés signés par cette vieille dame si elle était morte depuis plus de 2 ans? L'employé avoue avoir lui-même complété les bordereaux pour simplifier sa distribution. Il a sonné, et en l'absence de réponse, au bout de quelques jours, il a glissé la lettre sous la porte pour être sûr qu'elle la trouve sans avoir besoin d'aller jusqu'à la boîte aux lettres. Madame Fournier recevant très peu de courriers, il ne s'est pas douté qu'elle ne le ramassait plus. De retour chez lui, les semaines s'enchaînent. Le fantôme de l'appartement de la rue Brouchier continue de hanter Julien. Il lui arrive le soir de rester réveillé, guettant un silence pesant qui lui semble familier, un écho de solitude qu'il ne parvient plus à ignorer. Il a cependant pris l'habitude de demander des nouvelles à ses parents tous les vendredis, même pour entendre les foudres de son père, et il a enjoint à Laura d'en faire autant. Vous venez d'entendre Le bruit du silence, nouvelle de Séverine Mazière, extraite du recueil 100 000 broutilles que vous pouvez vous procurer sur Internet. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que Le coin lecture est aussi votre émission. Si vous êtes autrice ou auteur de textes que vous aimeriez entendre lire à cette antenne, ou si vous souhaitez me recommander des autrices et auteurs locaux et contemporains, vous pouvez contacter RLP par mail à l'adresse radiolibresenperigord@gmail.com ou par téléphone au 05 53 46 80 24 où vous pourrez laisser un message en précisant le nom de l'émission Le coin lecture. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.